J'aimerais sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et lire à partir du verset 32. Un épisode bien connu des lecteurs de la parole de Dieu. C'est un texte qui nous parle du moment où Jésus a été arrêté, où il va être reconduit après avoir été jugé tout simplement, et bien jusqu'au bois, sur le bois de la croix pour y être crucifié et y mourir. Donc au verset 32, il est dit « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Une deuxième lecture, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Bien sûr, c'est Jésus qui parle. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, c'est la dernière lecture. Il s'agit de l'apôtre Paul, cette fois-ci, qui dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Nous allons fixer notre attention sur l'histoire d'un homme qui était là, à la croix bien sûr, un des deux malfaiteurs, mais celui-ci va être sauvé, tandis que l'autre va être perdu. Alors nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur ces malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Le verset 32 nous dit qu'on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. L'évangile de Matthieu nous rapporte que ces brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Vous voyez, il n'y a pas de différence, c'est tous les deux les mêmes. Ils sont condamnés, ils vont périr et ils réagissent de la même manière. Et puis là, nous venons de le lire dans l'évangile de Luc, qui nous montre bien sûr au verset 39 jusqu'au verset 41, qu'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. » Mais l'autre le reprend, il le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Donc il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un changement de comportement chez l'un des deux malfaiteurs. Au départ, on le voit, tous les deux l'injurient, en disant « Allez, si tu es le Christ, si tu es le Sauveur, sauve-nous, sauve-toi et sauve-nous, bien sûr. » Alors au départ, les deux brigands insultent Jésus. Puis l'un des deux va complètement modifier sa conduite. Il va parler tout à fait autrement. Alors, tout ce qui attendait ce brigand ce jour-là, qu'est-ce que c'était? Je parle des deux, mais je parle de celui-là en particulier. Eh bien, c'était la souffrance. Uniquement la souffrance. Crucifixion, la mort, bien sûr. Mais avant que le jour passe, bien sûr, il va se retrouver au paradis. Il s'est passé quelque chose. De condamné, d'homme qui va se diriger vers la mort, qui est en train de se diriger vers la mort, le voilà qui se dirige vers le ciel, particulier. Et je dis simplement, c'est ça. Ça, c'est le pouvoir, c'est la puissance de la croix. Pas de ce bout de bois, mais de ce qui se produit ce jour-là. Et Jésus était en train de mourir, ou il allait mourir tout simplement pour le salut de l'humanité. Donc pour le salut de ces deux malfaiteurs. Mais un sera perdu, l'autre sera sauvé. Alors bien sûr, la puissance de la croix. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de la croix? Pour beaucoup de monde, ça ressemble à de la folie. Comment tu me dis qu'un crucifié va nous sauver? Lui qui meurt, il va pouvoir nous sauver, nous. C'est particulier, mais oui, tu déraisonnes un peu. Alors, j'aimerais voir ensemble avec vous les différentes étapes qui vont amener cet homme de la condamnation à mort, à la perdition éternelle également, pas qu'à la mort physique, mais ça va le conduire justement au salut. Eh oui. Premièrement, c'était un condamné. Imaginez-vous, mettez-vous dans sa tête, dans sa peau. Je pense que sa dernière nuit, ça devait être une nuit difficile. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup dormi. Et puis, en pensant au matin qu'il allait venir, parce que les heures tournant, le jour se rapproche. Et là, eh bien, il y a des matins où l'on redoute de voir le jour se lever. Même si on n'est pas condamné à mort aujourd'hui, eh bien, je connais des personnes qui, eh bien, d'abord dorment mal, mais en plus redoutent le jour qui se lève. Hier, ça a été une catastrophe. Demain, qu'est-ce que ça va être? Donc, c'est pour ça que, eh bien, quelque part, on redoute de voir le jour se lever. Alors, toute la nuit, il a dû repasser le moment où le soldat roumain allait justement pour venir le chercher. Il avait certainement déjà vu des crucifixions. Donc, il savait, par l'exemple de ce qui était passé avant lui, comment ça se produisait. Alors, il a passé la nuit à se regarder certainement les mains, les pieds, imaginant l'instant où les clous, justement, des clous de 15 cm qui le perceraient, qui rentreraient dans ses mains et dans ses pieds. C'est vrai que son cœur devait battre à ce moment-là. Il devait battre la chamade, il devait battre très fort, bien sûr. Et oui, ses mains devaient être moites, sans rien faire, mais la transpiration était là, il devait couler les gouttes, bien sûr. Et il écoutait tous les bruits de la nuit. Et oui. Puis le moment est arrivé. Il a entendu des pas. Voilà que la porte s'est ouverte. Et puis il va être conduit justement à la mort. En parcourant ces couloirs sombres, c'était déjà un homme mort qui marchait. Parce qu'on peut le dire, il était comme cela. C'était quelque part le couloir de la mort, bien sûr, pas celui dont on parle aux États-Unis. Mais c'était un couloir particulier. Que doit-on ressentir quand on sait qu'avant le coucher du soleil, on n'existe plus, on est mort? Ça fait réfléchir, ça va faire cogiter. Eh oui. Un journal, USA Today, a fait un sondage auprès des Américains riches. Il leur fut demandé quelle est la chose pour laquelle ils seraient prêts à payer le plus d'argent. Alors les familles les plus riches ont répondu que leur désir numéro un n'était pas la beauté, ni l'intelligence, ni le pouvoir, même pas l'amour, mais une place au ciel. C'était leur réponse. Et l'article rapporte que les riches étaient prêts à donner en moyenne 640 000 dollars pour être sûrs d'avoir une place au ciel. Billy Graham, vous avez entendu parler de lui? Donc Billy Graham, cet évangéliste mondialement connu, il a été connu également de tous les présidents puisqu'il les visitait à la Maison Blanche régulièrement. Alors on lui a posé la question de tous les présidents qu'il a eu l'occasion de voir, quel était celui qu'il a vu le plus souvent? Il a répondu, Lyndon Johnson, donc le président Johnson, on le connaît plus comme cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort. C'est drôle, hein? Pour un homme qui a sur Terre le plus de pouvoir, le peuple américain, l'Amérique, c'est un pays puissant. Revenons à ce malfaiteur. Ce malfaiteur, il était donc un homme condamné. L'évangile de Matthieu nous dit que c'était un brigand. Donc un homme qui s'empare des biens, s'il faut, avec violence. Parce que c'est comme ça. Alors ce n'était pas un petit voleur inoffensif, non. Il était prêt à être violent. Mais il n'était pas là seulement condamné à la crucifixion, il était aussi condamné, ce que la Bible appelle, spirituellement parlant, à la perdition éternelle. Eh oui. Comme tous les hommes, comme vous et moi, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, pour ma part, eh bien, c'était un homme pécheur. Nous naissons pécheurs. David le dit, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Eh oui. Alors l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il raconte, dans ce verset-là de Romains 6, 23, oui, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tiens, le péché réclame un salaire. Le péché nous détruit, il nous rend esclaves, mais en plus il réclame un salaire. Eh oui. Alors, comme Jésus cet homme va être crucifié. Il passe par le même cheminement. Il va connaître lui aussi l'agonie douloureuse, celle de la crucifixion. Les pieds, les mains clouées. Il allait perdre son sang. Il allait souffrir et mourir de suffocation. Donc il aurait voulu certainement bien mourir rapidement. Si on vous dit ça va être long, vous dites ah non, que ce soit court, qu'on en finisse rapidement. Hein, n'importe quelle personne dans cette situation, sachant qu'il va mourir, mais il dit que ce soit vite, hein, il faut abréger mes souffrances. Hein. Mais lui, il le sait. La mort sur la croix, parce qu'il a déjà assisté à cela, eh bien, c'est des heures de torture et de souffrance, d'angoisse terrible. Alors, il n'y a pas que les crucifiés qui souffrent. Quand nous regardons un petit peu aujourd'hui, les personnes nombreuses sont en souffrance. Je parle à l'heure actuelle. Par exemple, à cause de maladies. Quelque temps, je voyais un reportage où personnes, suite à un accident, se sont retrouvées donc, sur fauteuil roulant. C'était une souffrance terrible. J'ai visité des personnes en hôpital. Jeune fille, je rappelle, de 18 ans, le jour de son anniversaire. Eh bien, celui qui pilotait la voiture n'a pas pris le virage. Ils se sont retrouvés dans le fossé. Le fossé, il y avait un pont. Et c'est elle qui a morflé parce qu'elle était côté passager. Le jour de son anniversaire, elle s'est retrouvée à l'hôpital, opérée et ensuite paralysée. Je l'ai visitée dans cette maison de rééducation. Et c'est vrai, c'est difficile, c'est horrible. Ça peut être également une santé qui est déficiente, vous savez, périodiquement. Hein. C'est pénible, on n'en finit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se lever la tête et sortir de là. Ça peut être une vie brisée suite à un échec. Dans divers domaines, il y a des échecs. Un mariage brisé, une vie conjugale dramatique. Des enfants également qui, pour des parents, font honte aujourd'hui parce qu'ils ont pris la mauvaise voie. Et c'est des familles qui vivent la douleur et la souffrance. En tout cas, pour cet homme, la souffrance a engendré chez lui l'amertume. Eh oui. Cette souffrance intolérable et cette agonie ont fait jaillir l'animosité. Eh oui. Il va donc déverser cette amertume sur qui? Sur Jésus. Vous avez jamais rencontré des personnes qui ne s'intéressent à Dieu, mais dans aucun domaine, et que le jour où ça ne va pas, alors on lui en veut. C'est pas vrai? Hein? Eh oui. C'est un peu ce qui se passe là, hein? Le modèle est reproduit, bien sûr, hein? Donc, il s'en prend à Jésus. Comme la plupart, je dirais qu'il avait entendu parler de Jésus, de toutes les œuvres miraculeuses qu'il avait opérées. Eh oui. Alors, ils sont trois à être crucifiés. Ils sont compagnons de misère. Mais alors, pourquoi injurier Jésus? Pourquoi l'insulter? Pourquoi se dresser contre lui? Pourquoi lui en vouloir? Il est dans la même condition qu'eux. Après tout, est-ce que Jésus est responsable de leur situation? Non, bien sûr que non. C'est pas Jésus qui leur a dit « Allez faire les 400 coups !» Pas du tout. Lui, il a prêché la justice, l'amour des autres, l'amour du prochain, d'être droit, honnête. Mais c'est lui qui prend les coups, là. Parce qu'on se dresse contre lui. Eh oui. Alors, voilà. Pour eux, il y avait quelque chose qui les dépassait. Même s'ils se sont moqués de Jésus quelque temps avant, eh bien, ils réfléchissent, ils disent, mais apparemment, il a tout pouvoir. Ce Jésus qui est là, avec nous, sur la croix, a le pouvoir de guérir toute maladie. On le sait, il a calmé des tempêtes, et les bruits nous sont venus, on nous l'a dit. Il a marché sur l'eau. Il a ramené à la vie plusieurs personnes qui étaient mortes. Mais là, là, c'est important. Nous, on est dans le coup. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Et le drame, il est là pour nous. Alors, c'est vrai que la souffrance peut faire de vous une personne meilleure ou alors une personne pire. Il y en a qui, avec la souffrance, se sont endurcis, ont eu un caractère encore plus terrible. Eh oui. Alors, le pire, c'est que parfois, ceux qui ont souffert, non seulement ont le cœur qui s'endurcit, mais aussi, ils se rebellent contre Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Alors que, de leur vie, Mais ils ne se sont jamais intéressés aux choses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui leur a plu, qui les a attirés, bien sûr. Une femme, dans sa détresse, disait « Dieu, si c'est comme ça que tu traites tes amis, alors il n'est pas étonnant que tu n'en aies pas beaucoup. » Pour elle, c'était caractérisé. Hein? Ouais, c'est ta faute. Comme si Dieu était à l'origine de toutes les souffrances du monde. La souffrance est venue par nos premiers parents qui ont désobéi à Dieu, à qui Dieu avait donné une vie magnifique. La gérance du jardin d'Éden. Oh, il n'y avait pas plus beau jardin que celui-là. Mais il y avait une condition. Vous pouvez y rester tout le temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf cet arbre. L'arbre qui est là, hein, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y touchez pas. Parce que le jour où vous allez y toucher, le jour où vous allez manger de ces fruits, c'est une certitude, vous allez mourir. Alors, ils ne sont pas morts physiquement. Non, ils ne sont pas morts physiquement, mais à partir de là, ils ont été séparés de Dieu, chassés du jardin d'Éden. Il y a eu la révélation, oui, parce que le serpent l'avait bien séduite, la femme. Il lui avait dit, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez tout. Ben oui, ils ont connu le mal et le bien. C'est pourquoi David dit, mais je suis né, j'ai été enfanté dans l'iniquité, dans le péché, dans le mal. Et nous sommes tous, nous avons été introduits ici-bas sur terre, de la même manière. Même si nous n'avons rien fait en tant qu'enfant, ben, nous sommes nés pécheurs. Parce que la lignée d'Adam et Ève a engendré des pécheurs. Jusqu'à aujourd'hui. Eh oui. Alors Job disait, un homme particulier, Job. Vous avez entendu parler de Job, au fait. Je vous parle de Job, mais si vous avez jamais entendu parler de lui. C'est un homme qui était riche. Qui avait un œil sur ses enfants, qui les surveillait, qui les éduquait de la même manière. Quand les enfants faisaient la fête entre eux, lui priait. En disant, Seigneur, qu'ils ne fassent pas quelque chose de mal. Qu'il ne se détourne pas de toi. Vous comprenez le personnage? Donc lui, Job, il dit, je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Un homme qui a fait confiance à Dieu, qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, parce qu'il a vu la rétribution de Dieu. Lui qui en une journée va tout perdre, toutes ses récoltes, toutes ses richesses, toutes ses maisons. Il va perdre ses enfants, tout son bétail. Il va tout perdre, il va se retrouver sur la paille. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Il n'a plus rien. Et voilà qu'à la fin de sa vie, bien avant la fin de sa vie, Dieu lui rend tout haut en double. Mais parce que cet homme a dû rester droit. Il a su se tenir, tout simplement, eh bien, fidèle à sa position, à son engagement. Quand on lui disait, mais maudit Dieu, il meurt. On a fini ça avec toi, parce qu'entre les ulcères qu'il a eu et tout ce qu'il a eu comme maladie, eh bien, il y avait de quoi justement dire, eh bien, écoute, qu'on en finisse vite avec toi. Lui disait, je ne le ferai pas. Mon rédempteur est vivant. Amen. Alors il dit, je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Même lui. Celui qu'on appelle le champion de Dieu, lui aussi. Alors, il ne faut pas ignorer que Jésus aussi expérimentait le rejet. On a rejeté Jésus. La solitude, il l'a connu. La trahison, il l'a connu. La souffrance, il l'a connu aussi. Amen. Permettez que je vous dise comment le prophète Ésaïe, donc, qui est venu environ 600 ans avant la venue de Jésus, prophétisait sa venue. Son existence ici-bas. Il dit, dans Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Il parle de Jésus. Il voit déjà, il sait déjà comment Jésus va venir. Parce que Dieu lui a révélé que le Sauveur allait venir sur la terre. Il est venu. Et voilà comment on va le traiter, voilà comment il va être considéré. Lui qui va faire du bien. Amen. Alors voilà que contre toute attente, un des deux hommes, un des deux brigands, va faire marche arrière. Qu'est-ce qui a causé un tel changement d'attitude? Moi, je vois une chose. Il regardait Jésus, il regardait son compagnon, il se regardait à lui. Et je pense que, eh bien, la façon dont Jésus se comportait la façon dont il attendait la mort était tout à fait différente. Pendant des heures, il a été témoin, tout simplement, du comportement de Jésus. Il a entendu comment Jésus avait prié pour ceux qui l'ont injurié et qui lui ont infligé cette cruauté. Aucune injure, pas de paroles de vengeance, mais des paroles d'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Pourtant, il est en train de mourir. Lui subissait la même condamnation. Il regardait Jésus. Il regardait son compagnon là, qui vociférait. Là. En tout cas, la mort de Jésus était tellement différente de la sienne. Voilà qu'il va réaliser tout simplement que ce que Jésus prétendait être était vrai. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui le Sauveur. Cet homme était prêt à confesser que Jésus était Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte comme c'est formidable? Eh oui. Alors il se retourne contre son collègue, l'autre brigand, et puis il prend position ouvertement devant tous, alors que, ils sont en train d'injurier Jésus. Et il s'adresse à son compagnon, il lui dit, « Tu es en train de mourir et tu maudis Dieu, mais ça... Vraiment jusqu'au bout, tu vas te retrouver face à lui et tu es en train de confirmer ta propre condamnation. Mais arrête! Le seul qui peut te sauver, c'est Dieu, et tu ne crains pas de te retrouver face à lui, mais c'est pas possible. » Voyez un petit peu, il s'est passé quelque chose, parce qu'il était sur le même chemin lui aussi. Il est en train d'agresser le nom de Dieu, bien sûr. Alors, contrairement à son compagnon, cet homme va reconnaître ses fautes, ses crimes. Il le dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Moi, j'y vois là un acte de repentance, Moi aussi, j'ai pleuré sur mon péché, quand j'ai reconnu qui j'étais et ce que Jésus avait fait pour moi. Mais j'ai pleuré sur ma misère, Eh oui. Alors, il n'a cherché aucune excuse. Cet homme est en train de dire, moi, je suis pécheur. Lui, il n'a rien fait, il est juste, lui, il est saint, il est pur. Le seul qui devrait se rebeller et dire, c'est injuste, c'est lui. Et nous, il est en train de crier à l'injustice, menteur que nous sommes. Mauvais que nous sommes. Eh oui. C'est l'apôtre Jean qui déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà que cet homme n'a plus cherché d'excuses. Il souffre. Il dit c'est justice, c'est normal. Le temps presse. Il va entrer dans l'éternité. Ça peut être du mauvais côté, au mauvais endroit. Alors, dans un dernier sursaut, il va crier à Jésus. Il va lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Malgré tout le sang qu'il est en train de perdre, malgré les souffrances qui le torturent, cet homme se repent. Il est en train de dire, « Je reconnais, c'est ma faute si j'en suis là. Si je péris, si je suis en train de payer, c'est ma faute. C'est pas celle de notre. » Voyez-vous, avec la conversion de cet homme, parce que cet homme s'est véritablement converti, nous voyons qu'aucune âme n'est au-delà des limites de la grâce de Dieu. Même le plus bas tombé, la Bible dit que Dieu l'aime et que Dieu veut le sauver, que Dieu veut le tirer de là et faire de lui un autre homme ou une autre femme. Amen. Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas, c'est-à-dire nous transformer. Faire de nous une nouvelle créature. Alléluia. Je vais finir. Jésus n'a pas abrégé les souffrances de cet homme. Il paye sa dette envers la société, bien sûr. Mais il va lui offrir beaucoup plus. Il va lui offrir le salut, l'éternité, le pardon. Amen. Moi, quand je me suis senti pardonné, quand je savais que j'étais pardonné, j'étais un maître du sol. On est libre. Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Tous ces fardeaux, ces poids que l'on a, ils s'en vont. Alléluia! Magnifique la vie avec Dieu. Eh oui, eh oui. Alors, je finis, je disais. Cet homme n'a rien pu faire pour mériter le salut. Non. Il a été jugé et condamné. Et là, c'est sa peine qui était là. Il était cloué. Tant qu'il n'a pas pu faire une bonne action au dernier moment. Hein? Comment aurait-il pu? Eh oui. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu nous offre le salut. Dieu nous offre le pardon. Dieu nous offre sa grâce. Alléluia. C'est extraordinaire. Vous en connaissez beaucoup dans le monde qui vous offrent des choses? Dans le monde, c'est donnant, donnant. Vous n'avez pas remarqué? Eh oui, il n'y a rien de gratuit. Sauf le salut. En fait, il n'a pas été gratuit pour tout le monde. Parce qu'il y en a un qui a dû payer pour nous. C'est Jésus. Celui que nous avons chanté tout à l'heure. Jésus le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Ce qu'on appelle le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui, justement, eh bien, alors qu'il n'est rien, pour rien dans l'histoire, il vient s'en mêler, mais en disant, voilà, lui, je l'affranchis. C'est-à-dire, je le libère. Je prends sa place, je paye pour lui. Ça, la rédemption. Jésus a payé pour nous. Alléluia. Il suffit de le croire, de croire qu'il l'a fait personnellement pour soi. Moi, je l'ai cru un jour. Et de lui dire simplement, Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Parce que le choix, c'est un choix individuel. Vous voyez, l'exemple de ces trois personnes crucifiées sur le bois de la croix, elle est là. Notre brigand, lui, il expérimente la même situation. L'un n'était pas plus favorisé par rapport à l'autre. Mais l'un va choisir tout simplement de reconnaître son état, de se repentir, tandis que l'autre va s'endurcir. C'est ce que je disais. Et sa situation va empirer parce qu'il va périr comme cela. Vous voyez, nous sommes face à la vie. La vie nous est proposée par tout simplement le Fils de Dieu, le Sauveur. C'est cet après-midi une occasion favorable. Amen. Il y a comme cela des choix qui s'imposent à nous dans la vie. Dieu ne nous impose pas de choix. Il nous laisse libres. Un jour, j'ai dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Je savais ce que je venais de vivre, je ne voulais pas revivre la même situation. Alors je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Et j'ai pris la décision, ce n'est pas ma femme qui m'a dit, lève ta main. Non, je n'aurais pas fait, au contraire. Mais ce jour-là, j'ai dit, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et si vous faites la même démarche que j'ai faite, hein, on va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes, vous voulez bien ?